Ailleurs dans le monde, bonsoir Eric Valmière.
Bonsoir Nicolas.
Ce soir, la Grèce.
Et les migrants, 250 réfugiés syriens et irakiens ont passé la frontière au nord de la Grèce et ont pu entrer en Macédoine. Ils sont 12 000 bloqués de l'autre côté des grillages. Les Macédoniens ont laissé passer quelques petits groupes, quelques familles. La décision d'ouvrir a été prise à Belgrade cet après-midi après une réunion intergouvernementale entre Croates, Autrichiens, Slovènes, Serbes et Macédoniens. Tous les pays à traverser en fait pour rejoindre l'Allemagne. Mais dans le même temps, tous les points de passage entre deux territoires verront un renforcement accru des forces de l'ordre. Il faut dissuader les migrants d'organiser des pressions sur les frontières. Mais comment pourrait-il en être autrement avec ce flux intarissable sur cette route baptisée la Voie des Balkans? À ce point de la frontière entre Grèce et Macédoine, par exemple, à Idomeni, passe le rail, même si aucun train ne circule en l'état, mais les ONG n'ont pas eu d'autre moyen qu'installer un camp pour éviter une catastrophe humanitaire. De 1000 personnes vendredi dernier, on est passé à 3000 lundi et nous sommes ce soir mercredi à 12 000. Incroyable. Et d'autres familles continuent d'arriver. Comment vivre et se nourrir pour ces gens désormais sans ressources? L'argent du voyage est entièrement dépensé, la nourriture épuisée comme les organismes. Dans le camp, il y a au moins 2 à 3 heures d'attente pour un minuscule sandwich, sans avoir la certitude d'en avoir un. Un camp avec une jauge de 1500 places dans lequel s'entassent 11 005, donc à peu près 10 fois plus, sans oublier ceux qui arrivent derrière. Antoine Gignot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes justement à Idomeni, et ce camp, vous y avez passé votre après-midi.
Et ce sont surtout les files d'attente qui sont interminables. Rachid a quitté Damas au mois de janvier. Il est arrivé ici il y a un peu plus d'une semaine. Aujourd'hui, il a passé l'essentiel de sa journée à faire la queue pour trouver de l'eau et du pain.
C'est about 2 hours or 3 hours, sometimes more.
Il faut attendre 2 ou 3 heures, parfois plus. Et tout ce qu'on a, c'est un petit sandwich. C'est pas suffisant, c'est vraiment pas suffisant, surtout pour les enfants. Ça a été 10 jours très difficiles parce qu'il fait vraiment très froid. Il y a 2 jours, il pleuvait et il y a eu beaucoup d'enfants et de personnes âgées qui sont tombées malades. Mon frère maintenant a la fièvre, lui aussi, c'est vraiment difficile.
Car ce sont surtout des familles qui tentent de passer en Macédoine. Près de 40% des réfugiés qui sont ici ont moins de 18 ans, avec beaucoup d'enfants en bas âge. Céline Gagne est la coordinatrice terrain pour Save the Children à la frontière entre la Grèce et la Macédoine.
Ils fuient la plupart du temps un conflit, ils sont passés par des conditions extrêmes en mer et ensuite le voyage jusqu'ici est très long. Il faut savoir qu'un certain nombre de bus sont retenus sur les routes entre Athènes et Idomeni pendant 1 à plusieurs jours sans service de base. Donc ils arrivent ici exténués, il y a uniquement une distribution de nourriture générale et les personnes les plus vulnérables, et en l'occurrence les femmes enceintes et les enfants, ne sont pas en capacité d'attendre pendant des heures dans les lignes. Donc certains obtiennent de la nourriture, mais pas tous. Donc à l'heure actuelle, avec notre nutritionniste, nous sommes en train de voir dans quelle mesure nous pouvons prévenir une potentielle malnutrition dans le futur.
Et les réfugiés, Antoine, commencent aussi à manquer d'argent.
Beaucoup sont arrivés il y a maintenant plus d'une semaine. Ils pensaient passer rapidement en Macédoine, mais ils sont restés coincés. Depuis hier, moins de 200 personnes ont réussi à traverser la frontière. Wassim, par exemple, vient d'Alep. Il est resté du côté grec aujourd'hui. Il cherche à rejoindre une partie de sa famille qui est déjà passée en Allemagne. Et comme d'autres réfugiés, comme des dizaines de personnes, il faisait la queue devant le guichet d'un petit bureau de transfert d'argent à proximité du camp pour tenter d'avoir un peu de monnaie.
On n'avait pas prévu ça. Avant, la frontière était ouverte. Du coup, on pensait ne passer que 2 ou 3 jours en Grèce. Alors, on a dû demander à des amis de nous aider, d'envoyer de l'argent pour nous permettre de continuer. J'ai passé plus de 2 semaines en Grèce. J'ai dû dépenser mon argent pour avoir de la nourriture, acheter des vêtements parce que les miens ont été perdus dans le bateau. On est 3 personnes. On a dû dépenser plus de 500 euros.
Et ce n'est qu'une somme relativement faible à l'échelle de ce que dépensent en moyenne les familles qui fuient les bombardements et les guerres. Nas était professeure d'anglais au Kurdistan irakien. Elle est partie sur les routes il y a près d'un mois avec toute sa famille.
On a perdu notre argent. On n'a plus rien pour continuer notre voyage. On a dépensé 7500 dollars jusqu'à maintenant. C'est énorme pour quelqu'un comme moi. Mais je veux aller en Allemagne. Je n'ai personne là-bas, mais je voudrais y aller. J'ai entendu dire que c'était des gens gentils.
Nas salue aussi la générosité des Grecs. Ils nous ont donné des couvertures, un peu de nourriture, dit-elle. Les Grecs qui, malgré les 700 millions d'euros promis aujourd'hui par l'Union européenne, continuent de se sentir un peu seuls face à la crise migratoire. Près de l'entrée du camp, Christos est venu avec un camion. Il vend du café, des boissons et un peu de pain aux réfugiés qui passent.
Regardez tous ces gens, ils sont crevés. La seule chose qu'ils veulent, c'est une ouverture des frontières, qu'ils puissent passer en Europe. Eh bien, c'est l'Europe qui doit trouver la solution. Nous, on a déjà fait beaucoup ici. Il n'y a pas que les Grecs qui doivent tout supporter.
Reportage d'Antoine Gignot à la frontière gréco-macédonienne. Antoine Gignot que nous retrouvons à 19h dans le journal de Sébastien Paour. Et quand on remonte à contre-courant ce flux de migrants continu, on arrive à Athènes où la situation est là tout aussi tendue. Et en continuant encore la route des migrants en sens inverse, on arrive sur l'île de Lesbos, véritable porte d'entrée de l'Europe. C'est ici, après avoir tenté une traversée maritime périlleuse au risque de leur vie, qu'arrivent les Syriens, les Afghans, les Irakiens. C'est ici aussi que se cristallisent toutes les bonnes volontés avec des bénévoles venus de l'Europe entière, beaucoup d'Espagne particulièrement. Béatrice Duguay, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes grand reporter à France Inter et vous rentrez tout juste de Lesbos.
Il y a un côté brigade internationale, toute proportion gardée bien sûr par rapport à l'époque de la guerre d'Espagne. Mais ce qui anime les volontaires est de la même veine, généreuse, altruiste. Ceux tout juste débarqués comme Ivan et Marcus viennent par exemple donner un coup de main pour une semaine. Le premier est britannique, la quarantaine. Le second est allemand, 19 ans, étudiant.
Je suis la situation aux infos depuis des mois et des mois et ça me rend malade cette inaction du gouvernement britannique. Ça me rend malade, son incapacité à penser, à faire quelque chose. Et puis j'ai remarqué qu'une campagne populaire montait, que les gens commençaient à aider les autres, parce que tout le monde est dégoûté par le fait que le gouvernement ne fasse rien. Je voudrais que mon pays accepte plus de réfugiés qu'il ne le fait aujourd'hui. Et je voudrais accueillir les réfugiés. Mais ça n'est pas le cas en ce moment à cause de cette inaction du gouvernement. Donc j'ai décidé de venir ici et de faire ce que je peux, maintenant.
Je suis déjà venu 7 semaines au total. Et je reviens pour quelque chose comme 6 semaines. Je vais juste aider les gens, rien d'autre. J'ai vu ce qui se passait aux infos et je suis parti.
Ces volontaires se relaient donc par centaines sur l'île pour nourrir, abriter, habiller les réfugiés. Leur afflux a causé du souci de coordination au début. Après le chaos de l'été et de l'automne dernier à Lesbos, les ONG sont aujourd'hui plus nombreuses sur le terrain. Mais en attendant, l'aide bricolée des bénévoles a été précieuse. Elle le reste et devient parfaitement complémentaire de l'action des ONG en même temps que le nombre de ces volontouristes s'ajuste en fait aux afflux de réfugiés. Volontouristes, c'est ainsi que Joël Hernandez, porte-parole de HSA, les appelle. HSA, Humanitarian Support Agency, association fondée par un Français.
Les ONG sont coordonnées entre elles-mêmes et ont l'habitude de diviser le travail entre elles, pendant que cette habitude n'existe moins ou n'existe pas entre les bénévoles. Donc, les organisations comme par exemple nous-mêmes, HSA, Humanitarian Support Agency, ou par exemple Starfish Foundation, qui est active au nord de l'île, on essaye de faire un petit peu le pont entre ces deux organisations. D'un côté, on recrute des bénévoles, on leur fournit un entraînement et on leur donne du contexte autant opérationnel comme politique sur la crise et comment se faire utile dans cette crise. Et on fait aussi une liaison avec les ONG pour leur fournir du travail et pour leur fournir des bénévoles disponibles au moment où ils ont des ressources mais où ils n'ont pas nécessairement la main d'œuvre pour faire arriver ces ressources aux bénéficiaires qui en ont besoin. Les ONG généralement ont les matériaux qui ont besoin, mais peu de main-d'œuvre. Nous, on a beaucoup de main-d'œuvre et peu de matériaux.
Ces bénévoles viennent de toute l'Europe, de toutes les catégories sociales, de tous les métiers, pour une semaine ou quelques mois. Des Palestiniens sont arrivés également depuis quelques semaines sur l'île. Ils assurent un support psychologique pour populations traumatisées. Ils sont aussi particulièrement bienvenus en tant que traducteurs à l'hôpital de Mytilène, notamment. Les médecins qui soignent les personnes réfugiées procèdent par gestes depuis des mois sans pouvoir communiquer vraiment avec la plupart de leur passion. Les volontaires sur Lesbos aident de toute façon à sensibiliser le monde sur le sort des migrants. C'est incontestable pour Andrew Kuzak, membre du HCR à Lesbos.
Les volontaires maintenant se sont mis en groupe et on a vu qu'ils ont commencé des nouveaux ONG. Et vraiment comme staff professionnel de ONG ou HCR, dans mon cas, c'est la première fois que j'ai vu ça. En Centrafrique, on n'a pas vu ça. En Yémen, en Irak, oui, il y a des volontaires, mais c'est des personnes uniques, des petits groupes. Ici, c'est par des centaines. Ils sont très forts, ils sont très bien, ils apprennent un peu l'état des lieux, ils apprennent, écoute, on ne prend pas des selfies avec les réfugiés, c'est une communauté très très positive. On voit un impact sur la communauté internationale. Et chaque volontaire poste au blog, poste à Facebook, poste à Twitter, et c'est un impact qu'on ne voit pas aux nouvelles, qu'on ne voit pas à France 24, qu'on ne voit pas à CNN et tout ça, qui est très important, je pense, dans mon opinion, pour mieux comprendre cette situation.
Les volontaires lanceurs d'alerte, en quelque sorte. Quelque chose me dit que leur action est loin de s'achever sur ces îles grecques, notamment à Lesbos. Sur les deux premiers mois de l'année, rappelons-le, l'île a accueilli autant de migrants qu'elle ne compte d'habitants, Eric.
Et ce n'est pas fait, et ce n'est pas fini, malheureusement, Béatrice Duguet, de retour de Lesbos. Merci Béatrice. Quand je dis que ce n'est pas fini, c'est qu'il y a une réelle menace des autorités portuaires de ne plus acheminer les migrants par ferry au port du Pirée, ce qui fait craindre évidemment une explosion humanitaire sur Lesbos qui deviendrait un nouveau goulot d'étranglement. D'autant que les beaux jours et la saison estivale à venir laissent présager le pire. Beau temps égale mer calme et les mafias des passeurs prospèrent de manière exponentielle sur le dos de la guerre.
Merci Eric Valmire pour ces deux très beaux reportages ailleurs dans le monde. Le journal de l'International tous les soirs sur France Inter.